Hier, on la retrouvait concernant cette série de perquisitions, d'arrestations concernant un réseau lié au blanchiment d'argent émanant du crime organisé. Bien, on la retrouve aujourd'hui parce que la GRC a fait le point avec une liste des gens, entre autres, interceptés dans cette vaste opération, notamment à Toronto et Montréal. Il y a quelqu'un chez nous. On va retrouver Annie Guillemette de Cogeco Nouvelles. Bonjour, Annie.
Bonjour, Martin.
Bon, la GRC qui a expliqué davantage le fameux stratagème, mais on parle de millions et centaines de millions de dollars blanchis, là.
C'est très impressionnant, cette histoire-là. On a eu ce matin, nous, journalistes, pas trop habitués avec les choses illégales, notre cours du système bancaire parallèle parfait.
Ah.
Parce que c'est vraiment ça qu'on avait implanté. Les 17 personnes arrêtées, il y en a 3 encore recherchées qui sont à l'étranger. Donc, avaient développé ça. Ils avaient des amis partout dans le monde. Là, il y a plusieurs des ramifications là, dans plusieurs pays. Ça allait jusqu'en Chine, au Liban, aux Émirats arabes unis, bien sûr aux États-Unis, en Iran aussi. Et tout ça aboutissait au Mexique, en Colombie, parce que l'objectif ultime, bien sûr, c'est de payer les stupéfiants qu'on va revendre. Soit dit en passant, les clients de ces groupes-là, par contre, n'étaient pas tous des revendeurs de stupéfiants. On y reviendra. Donc là, ce qu'on faisait, c'est que l'argent de la drogue qu'on vendait sur les rues ou l'argent qui provient de n'importe quelle autre source, eh bien, on mettait ça dans des gros sacs, dans des valises, et on envoyait des courtiers, des courriers, appelez ça comme vous voulez.
Oui.
Dans le jargon, bien sûr, on emploie le mot anglais « runners ». Et ça s'en allait à Toronto dans une cache. Les gens étaient d'ailleurs identifiés par un « token ». Ça,
c'est quoi, ça?
Une espèce de carte d'identité illégale.
Okay.
Souvent, ça se traduit par un billet de 1 $ américain. Et lorsqu'on part avec une valise, on ne donne pas la valise à la personne à qui on doit qu'on doit rencontrer, sauf si elle nous donne le bon numéro de série d'un dollar américain qu'on a dans nos poches.
Okay.
C'est la façon qu'on a pour s'identifier dans ce genre de système-là. Et on nous dit que ça a déjà été vu dans d'autres frappes policières du genre, entre autres en 2000, il y a quelques années, au Québec aussi. Donc, l'argent reste au pays. C'est ça le secret de la caramilk, là, Martin. On garde les billets à l'intérieur de chacun de nos pays. Comme ça, on passe sous le radar de la sécurité et on effectue plutôt de fausses transactions électroniques d'un pays à l'autre.
Okay.
Ce qui fait que les gens en Iran, par exemple, qui veulent se payer quelque chose ou qui veulent faire des transactions, eh bien, ils ont de l'argent liquide sous la main, alors qu'ils sont supposés l'avoir envoyé dans un autre pays. La même chose au Mexique, la même chose en Chine, la même chose partout. C'est ça qui ça fonctionne vraiment comme un système bancaire. Vous savez, la caisse populaire du coin, ces billets, là, quand vous faites un dépôt, vous envoyez de l'argent à une tante ou à un oncle ailleurs, en cadeau de Noël, bien, c'est pas votre billet de 10 $ qui part, là. C'est vraiment une transaction électronique. On faisait la même chose, puis sous le radar. Donc ça, c'était vraiment la façon de faire. Et une des façons qu'on avait pour remettre cet argent-là dans le système légal, c'était avec des traites bancaires, des bureaux de change. Donc, les gens qui font venir de l'argent d'un autre pays, par exemple pour la famille, et on va au bureau de change, on nous donne une traite bancaire où on nous donne de l'argent sonnant, de l'argent en billets.
Oui.
À ce moment-là, c'était cet argent-là qu'on utilisait. Pardon. Donc là, on se retrouvait à entrer l'argent dans le système et les gens se promenaient avec de l'argent illégal, souvent sans le savoir. Bien sûr, le but ultime, c'était d'aboutir à payer les fournisseurs de drogue, par exemple, au Mexique, en Colombie, aussi se payer un beau train de vie. Et c'est pour ça qu'on... Je m'excuse encore.
Il n'y a pas de problème.
Et c'est pour ça que la GRC, on saisit de la drogue, on saisit plein de choses, mais on frappe aussi l'argent parce qu'on nous dit que c'est là que ça fait vraiment mal. Là-dessus, on écoute Martine Fontaine, elle est surintendante à la GRC.
Avec l'argent, ils s'achètent leurs biens, ils font des placements, ils vivent une vie que... Comme vous, ils ne se lèvent pas tous les matins pour venir travailler puis ils ne payent pas leurs impôts. Plus, ils ont besoin d'argent pour faire circuler l'argent pour acheter les stupéfiants. Donc, si on est en mesure, justement, de démanteler, justement, et s'attaquer à ça, bien, on frappe vraiment dans leur motivation, dans leurs outils. Parce que sans argent, on le sait, il n'y aura pas de stupéfiants qui vont s'en venir au Canada. Mm-hmm. Puis sans argent, ils ne pourront pas s'acheter leurs biens et faire vivre leur famille allègrement.
Bon, c'est assez clair que c'est, l'argent était le nerf de la guerre.
Effectivement.
Oui.
Et là, on apprend aussi aujourd'hui qu'on parle beaucoup de groupes criminels qui étaient les clients de ce groupe-là, parce que je le rappelle, ce réseau-là ne vend pas de drogue sur la rue, là. C'est un réseau de blanchiment d'argent.
C'est ça, la job, là.
Exactement. Okay. On nous dit qu'il y avait comme clients 6 cellules ou groupes criminels. Oui, plusieurs étaient des groupes criminalisés en matière de stupéfiants, mais on nous dit que ce n'est peut-être pas uniquement ça. On a refusé ce matin de nous donner le nom exactement. Là, on verra au fil des procès.
Ouais.
Et est-ce que ces réseaux-là étaient amateurs ou important? Eh bien, la réponse, c'est dans la deuxième partie de ma question. On parle vraiment d'un réseau qui avait des ramifications, je l'ai dit, partout à travers le monde. On va écouter le sergent François-Olivier Millette. Il a chapeauté l'enquête et ils ont filmé plusieurs transactions, ont vu passer des sommes astronomiques d'argent. On lui a demandé combien. Voici sa réponse.
Avec la quantité d'argent qu'on a vu circuler pendant près de 3 ans, il est clair que cette organisation avait une certaine importance. À ce moment-ci où on se parle, il y a tellement d'argent qui a circulé que ça serait même difficile de pouvoir mettre un chiffre, mais je peux vous dire qu'on est dans les centaines de millions.
Question en terminant, Annie. Le fait qu'il y ait un homme d'Austin, Gary Maybe, 57 ans, est-ce qu'on peut faire un lien aussi avec certains groupes criminalisés de notre coin?
Bien, c'est possible. Il faudra voir selon les accusations, parce que là, nous, on a la liste des accusés et, grosso modo, les chefs d'accusation qui ont été portés en général.
Il
faudra voir cet homme-là s'il fait face à des accusations de complot, de transactions de biens criminellement obtenus. Bien là, on va voir c'est quoi son rôle.
Ouais.
Il pourrait facilement être une personne, justement, qui transportait des sacs pleins d'argent,
des
valises. Un petit courrier qui allait faire des tours à Toronto de temps en temps. Il y avait beaucoup d'amis là-bas.
Merci beaucoup.
On verra.
Ouais, merci beaucoup, Annie Guillemette.
Au revoir.
Merci. Elle est de Cogeco Nouvelle.